t'en peux plus d'être un agneau.
Sors de l'enclos, mets la radio.
Sors du troupeau, mets la radio. Dans les monts d'art, à Locmélard.
Tu veux découvrir la radio?
Oh oui, je veux.
Viens en bistrot, dans les monts d'art, près de Locmélard.
Sors du troupeau.
Sors du troupeau, à Locmélard, dans les monts d'art.
Mets la radio.
Deviens le mouton noir du troupeau et mets la radio.
Bonjour et bienvenue à Locmélard dans le centre Finistère. Nous sommes en direct du Mélardi où règne une certaine effervescence à l'approche de l'été avec une programmation exceptionnelle cet été. Ne ratez pas les infos sur la page Facebook du Mélardi. Ça sent toujours aussi bon avec les pizzas de notre ami Thomas qui se trouve sur la place de Locmélard tous les mercredis. N'hésitez pas à venir en profiter. Donc toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Passe le Mic sur Mélard Radio. Une radio associative grâce au soutien de Radio U et de notre ami Quentin. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Mick.
Dans chaque émission, nous vous proposons de découvrir une personne de Locmélard ou de ses environs afin de mieux le connaître. Et le tout dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Vous pouvez écouter nos dernières émissions en podcast sur Radio U. N'hésitez pas à aller les découvrir. Donc ce soir, autour de la table, nous avons le plaisir d'avoir Ludwig. Bonsoir Ludwig.
Salut, salut.
Nous avons bien entendu notre intervieweur national, Jean R.
Bonsoir Jean R. Salut.
Voilà, donc merci. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Palu, qui est en charge de la licence PPPE, parcours préparatoire au professorat des écoles français-breton. Et il enseigne également la langue bretonne et la pédagogie de l'enseignement bilingue à l'UBO de Brest. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de t'accueillir au Mélardi. Donc avant de commencer l'interview, peux-tu nous parler un peu de toi afin que les auditrices et auditeurs te connaissent un peu mieux?
D'accord. Bon, moi je suis de par ici, je suis né à Plouzévédé. Mon travail c'est professeur d'école. Donc j'ai été enseignant à l'école de Cléder, l'école Père Jacques-Casselias. J'enseignais donc en classe bilingue. Et ensuite, j'ai eu un parcours de conseiller pédagogique langue et culture régionale dans le Finistère. J'ai été aussi inspecteur pendant 2 ans en charge des classes bilingues, du breton en général. Et puis depuis 3 ans, donc, je m'occupe du parcours préparatoire au professorat des écoles à l'UBO, comme tu l'as dit.
D'accord. Très bien, merci. Merci Jérôme pour cette petite présentation. Donc je vais laisser la parole à notre ami Jean R.
Oui, alors merci Mick, bienvenue Jérôme, on est content de t'avoir ici ce soir.
Avec plaisir.
On va avoir une super discussion, je suis sûr. Avant ça, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir à nouveau Hector Caradoc et l'Orchestre Symphonique du Pays des Abers. Alors Hector, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Alors, je voulais commencer par présenter des excuses.
Ah bon?
Oui, on a eu des retours sur les émissions précédentes et il s'avère qu'on a eu qu'on vous entend mal.
Quoi ?
Oui, alors notre équipe technique a travaillé dur et aujourd'hui on peut enfin vous entendre correctement. Calmez-vous s'il vous plaît. Tout va pour le mieux et la musique que vous avez jouée a été diffusée sans problème.
Ah, bonjour.
Alors, on en discutera après l'émission. Je crois qu'exposer nos auditeurs à cette scène est inconfortable. Bah écoutez, allez rejoindre vos musiciens et lâchez ce micro, s'il vous plaît. Lâchez ce micro, bon sang. Bon, voilà, désolé, Jérôme. Excusez-nous, chers auditeurs. À l'occasion de cette émission, malgré tout, Hector nous fait la surprise de nous... chanter, nous présenter un corn à discount dont il a le secret. Musique.
Papa, en chantant cette chanson, j'ai envie, papa, de marcher là où mon enfance courra. Thank you.
la époque moi remè aïe ces vacances là tout monde lit. Que tout le monde chante la joie. Belle bagaille, c'est vacances. N'a pas les cinémas, n'a pas les enfants avec un pile bébé. N'a pas profité tant pour ça jouer la vie. C'est l'aine à loin, maman.
Alors, on peut remercier l'Orchestre Symphonique du Pays des Abers pour cette performance incroyable. J'ai quand même un petit doute sur le fait que ce soit un Kanadiscan, mais Hector Caradoc est déjà parti. Il me semblait que le Kanadiscan, Jérôme, c'est autre chose, non? C'est quoi?
Alors, c'est du chant à répondre, en bon français.
Ah, donc, c'est ça la traduction de Kanadiscan?
Voilà, Kan, c'est le chant, et Discan, c'est le retour du chant, en fait. On répond.
Donc il y a quelqu'un qui dit quelque chose, qui énonce quelque chose, et une autre personne qui reprend.
Voilà.
Donc, c'est ce qu'on peut entendre dans les Fesnos.
Et voilà. C'est ce qu'il faut donc être plusieurs, comme les sœurs Guadec, comme les frères Morvan, par exemple.
Ok, bon, bah, merci Jérôme de rétablir ça. Hector est déjà parti loin, donc il ne va pas pouvoir se justifier. Bon Jérôme, je te connais depuis longtemps.
Oui.
On se tutoie.
Tout à fait.
Je te connais comme sportif. Tu es quelqu'un de sportif, quand même.
Un peu, quoi. Ouais,
ouais quand même. Amateur de Britpop.
Ah, parfois, ouais. Ancien, ouais.
De concert.
Voilà.
Tu fais pas mal de concerts.
Ouais.
Je te connais comme un travailleur acharné aussi.
Oh, comme d'autres.
Ouais. Je te connais avec l'identité Léonard. Je sais pas si je peux le dire.
Comme nous tous, hein. Ouais.
Peut-être qu'on définira ça un peu plus tard.
Oh là.
Ouais, c'est un programme. C'est un gros sujet. Hein.
Oui. Ouais.
Et évidemment, passionné de breton.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est une grande partie de ta vie. Donc on va aborder l'identité bretonne et son histoire à travers sa langue. C'est ambitieux.
Hein. Bon, on va essayer. Hein.
Voilà,
on va faire ce qu'on peut. Hein.
Voilà, voilà. À mesure de ce qu'on saura apporter. D'abord, je voudrais aborder ton rapport à la langue. Puis, dans un second temps... parler de la langue un peu plus précisément en elle-même. Et puis après, on terminera par le volet de l'enseignement.
C'est très bien.
Ça te va?
On y va.
Ok. Alors, bah, la première question, c'est comment toi, tu as appris le breton? Quels sont tes premiers souvenirs du breton?
Ouais. Alors, moi, je pense que j'ai toujours été entouré de la langue bretonne à la maison et puis surtout avec mes grands-parents. J'étais souvent chez mes grands-parents qui, eux, ne parlaient que breton entre eux. Ils s'adressaient à moi en français, mais entre eux, ils parlaient breton, les voisins, tout le monde parlait breton. Donc, je ne comprenais pas tout, loin de là, mais j'étais baigné dedans. Mes parents parlaient breton avec les gens qui venaient travailler, les voisins, les anciens. Mais je ne maîtrisais pas la langue, je n'étais pas capable de la parler. Mais voilà, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu du breton autour de moi. Et puis après, je l'ai appris par l'intermédiaire de cours, et puis beaucoup avec... encore avec mes grands-parents, mes parents.
Est-ce que les anciens avaient cette volonté de te faire comprendre cette langue? Parce que moi, j'ai le souvenir que c'était un petit peu... Ils parlaient entre eux pour pas qu'on comprenne.
Non, non. Après ça, ça dépend des familles. Mais souvent, les anciens de la génération de nos grands-parents, là, nés dans les années 10, rejetaient un petit peu la langue bretonne. On leur avait un petit peu, même beaucoup, interdit de la parler à l'école. Ouais. Et donc, pour eux, c'était la langue d'un ancien temps qui ne servait pas à grand-chose. Donc mon grand-père, par exemple, était comme ça. Hein, il ne comprenait pas pourquoi j'apprenais le breton. Et puis au fur et à mesure, quand il a vu que que je m'acharnais, que j'avais du plaisir, et puis que ma foi, on discutait bien en breton ensemble. Donc il a joué le jeu, et puis surtout, je lui ai expliqué que de nos jours, on pouvait trouver du travail avec le breton, et ça c'était quelque chose, quoi.
Ouais. Ah ouais.
Ah oui.
Mais entre comprendre quelques mots et puis faire une conversation, quand est-ce que tu situes ta capacité à avoir des premières conversations? C'était après avoir pris des cours?
Après avoir fait quelques cours du soir, appris par moi-même, et puis fait quelques stages aussi de quelques semaines avec l'association Roudour, qui était à l'époque à Huelguat. Mmh. Donc là, ça m'a permis de me lancer, quoi. Et puis comme j'avais fait des études d'anglais, j'avais l'habitude de parler l'anglais, c'est vrai que j'étais assez habitué à parler une seconde langue. Et à partir du moment où on est lancé, qu'on a envie d'apprendre, je pense qu'il faut savoir écouter, s'entraîner. Et puis qu'on a la chance d'avoir des bons interlocuteurs comme l'étaient mes grands-parents, ben normalement on apprend vite.
Ouais.
Et donc tu disais que tu prenais des cours du soir. Et à quel âge tu as commencé à vraiment pouvoir faire des conversations normal avec tes grands-parents
Ouais, je crois que j'avais 22 ans, en fait.
Ah ouais, assez tard, quoi.
C'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris, quoi, en fait. Mais à ce moment-là, je pensais que je ne connaissais rien. C'est petit à petit que je me suis rendu compte que, quand même, j'avais une certaine connaissance.
Le fait d'avoir pu échanger
le fait d'avoir entendu toujours du breton autour de moi, il y avait quand même la musique de la langue, quoi, en fait.
Ouais, t'avais des notions, quoi.
Oui, on sent assez rapidement si on est dans le ton ou pas, en fait. Alors que pour certaines personnes qui sont pas du tout du cru, c'est peut-être un peu plus compliqué au début, je crois.
Ah ouais, donc c'est venu quand même sur le tard. En fait, il a fallu étudier la langue pour l'acquérir, quoi.
Ouais. Okay. C'est un plaisir, hein, lire, écouter, prendre des notes. Puis essayer d'utiliser ce qu'on a appris.
Et donc en toi, il y a eu cette volonté d'aller vers cette langue, parce que tu aurais pu, comme moi par exemple, avoir eu des grands-parents qui parlaient breton à côté de toi, mais pas pousser le bouchon. Toi, tu as eu cette volonté d'aller chercher ça, quoi.
Ça a toujours été un trésor, quoi, tout de suite. Hein. Je me suis rendu compte que les personnes âgées, là, qui parlaient si bien cette langue, c'était vraiment une richesse incroyable, et très vite je me suis aperçu qu'en discutant avec les anciens, je découvrais des choses qui n'étaient pas forcément dans les dictionnaires, par exemple, ou qui étaient des mots qui étaient utilisés d'une façon différente de ce qui était noté dans les dictionnaires. Alors c'est impressionnant, quoi. On se dit que en tant que jeune apprenant, on découvre parfois des choses que tout le monde ne connaît pas, et on est content d'en parler avec d'autres et de les utiliser soi-même. Après il y a un rapport affectif à la langue aussi.
Est-ce qu'il est plus facile de parler ou de l'écrire, le breton?
Alors c'est beaucoup plus difficile de bien parler que de bien écrire, hein. En breton, on utilise le même alphabet que pour le français. Le système graphophono est très simple, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a à un son correspond en général un graphème, enfin, ou une lettre, ou plusieurs. Donc c'est plus simple que le français. Où, par exemple, en français, on a plusieurs façons d'écrire le son 1, A-I-N, E-I-N, c'est compliqué, hein. On a l'habitude maintenant, parce que c'est notre langue depuis qu'on l'a apprise à l'école, mais en breton, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la difficulté de l'écrit, non, c'est les anciens qui le disent beaucoup, parce que comme ils ne l'ont pas apprise, ils ont développé parfois un complexe par rapport à ça, et ils disent, comme je parle pas, comme j'écris pas, je suis sans doute pas un vrai locuteur, quoi. Mais en fait, c'est pas le problème, je crois pas, c'est facile d'apprendre.
Du coup, moi, j'ai une question aussi. En français, il y a toujours l'article pour des choses que j'ai jamais vraiment compris. Pourquoi on dit le canapé, la table, le fauteuil, la chaise? Pourquoi un le et un la? Et du coup, je vais te demander si en breton, il y avait aussi l'article le la pour les objets.
Ah, ça, c'est une question intéressante. En fait, c'est pas du tout pareil. Il y a des articles définis et indéfinis, mais ils ne marquent pas le genre. Voilà, c'est... mais le genre est marqué par des mutations, ce qu'on appelle les mutations, les fameuses mutations du breton.
Et j'avais demandé si la dictée c'était plus facile en breton, mais là c'est compliqué, en fait.
C'est comme en anglais avec le it et ils mettent e deux s à la fin. C'est it et s, quoi.
C'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que par exemple le mot maison en breton c'est ti, et en breton ti est masculin. C'est pas une maison, c'est... Donc on va dire « anti ». Quand le mot est féminin, en général, la lettre va changer, le « t » va se transformer en D. Hein, il y a des règles. Hein. Par exemple, devant nous, il y a la table. C'est Taul. Et on va dire, ça va être le même article, mais le début du mot va changer. Donc ça donne un Daul. Voilà. Je ne sais pas si je vous suivez.
C'est des diphtongues, c'est ça ?
Ce n'est pas des diphtongues. Taul, aussi, le AO là, du mot, ouais, c'est une diphtongue, c'est la voyelle. Ouais.
Moi, j'ai lu le breton pour les nuls.
Ah,
je ne sais pas parler breton.
Non, mais, on apprend tous. Hein. Moi, je suis un apprenant. Hein. Comme,
oh. Ah, c'est beau de dire ça.
Non, bah, c'est vrai. C'est...
Et alors, du coup, quand à l'âge de 22 ans, tu es capable de faire une conversation en breton, tu as fait du collectage ?
Ouais, un petit peu comme tous les apprenants. Hein. On aime bien prendre des notes ou bien enregistrer quand on a la chance de croiser ou de connaître des bretonnants compétents. Donc moi, à l'époque, c'était mes grands-parents qui étaient déjà âgés. Et j'avais vraiment envie de garder quelques traces. Donc j'ai enregistré quelques dizaines d'heures. Voilà, j'ai pris des notes. Et puis aussi d'autres personnes que je suis allé rencontrer quelques fois, comme ça.
Qu'est-ce que tu allais chercher qui racontent leur vie ?
Alors ça dépend des personnes. Ouais, les gens sont... Ouais, certains... Je me rappelle d'une dame, j'étais pas encore assis à table, qu'elle m'avait déjà raconté cette nuit de noces. Hein, voilà. à Comana, c'était rigolo. Hein. Je me suis dit, voilà, ici, j'aurais pas beaucoup de questions à poser. Quoi. Mais parfois, j'arrivais avec des questions précises, ou même des listes de mots. Je leur demandais, est-ce que vous connaissez ce mot-là ? Ah bon, vous connaissez pas, alors vous dites comment ? Et j'ai beaucoup appris comme ça.
Ok, tu t'es nourri de ces interviews, quoi.
Ouais, et puis souvent, les personnes âgées sont ou étaient intéressées par ça, et puis fières aussi de montrer ce qu'elles connaissent, quoi.
Que la jeune génération s'intéresse à eux aussi.
Voilà, puis c'est un renversement des choses, un petit peu. Parfois, elles ont eu honte de la langue, et puis de pouvoir me valoriser une richesse qu'elles ne savaient pas avoir, c'est valorisant.
T'as eu le sentiment des fois de sortir d'une maison en disant que ça leur avait fait du bien de te raconter ce qu'ils t'avaient raconté ?
Ouais, souvent c'était... Et puis c'est aussi une discussion en fait, tout simplement, hein,
oui.
Connaissance, on plaisante, voilà.
Ah oui,
ouais.
Ok.
Ouais.
Ok. Moi enfant, je me rappelle de personnes, j'en ai connu deux je pense, qui ne parlaient pas français, c'est ce qu'on me disait. Je trouvais ça dingue et ça me faisait peur parce que... Je ne savais pas avoir accès à eux.
Ouais, je pense qu'on est.
Tu te rappelles ça ?
Ouais, je pense qu'on est un peu la dernière génération à avoir connu quelques personnes qui parlaient pas français ou presque pas français. Moi, je connaissais quelques personnes aussi qui venaient à la maison quelquefois travailler dans les champs. Et bon, on peut pas dire qu'ils parlaient pas français parce qu'ils comprenaient un peu et parlaient un peu, mais leur langue habituelle c'était le breton. Donc mes parents là, ces jours-là, parlaient breton. Alors c'était un peu les seules fois où j'entendais mes parents ne parler que breton table, quoi. Voilà.
C'est... Donc, on a quel âge ? 40
Ouais, à peine.
Donc, il y a quelques 30 ans, il y avait des gens qui ne parlaient pas français en Bretagne, quoi.
Ou très peu, quoi.
Ouais. Ok, assez peu de malaisons. C'était des très anciens aussi, quoi.
Ouais, et puis c'est des personnes qui vivaient dans un monde où ils n'avaient pas forcément l'obligation de le parler, quoi, avec leurs voisins, dans le milieu... professionnel, rural, il n'y avait pas forcément besoin, donc il le parlait peu.
Mais ça traduit la puissance d'une culture, quand même.
Le fait de continuer à parler cette langue, comme ça ?
Bah d'avoir pu vivre une vie sans passer par le français, en fait.
Ah bah c'est une vraie langue, hein. C'est une langue qui permet de rendre toutes les nuances, toutes les richesses de la vie, hein. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc,
Ok. Alors, je sais aussi que tu t'es un acteur du breton par ton travail, mais aussi à côté, tu t'intéresses, tu passes beaucoup de temps à pratiquer le breton. Tu traduis des livres ?
Ah oui, j'ai fait un petit peu ce travail de traduction de littérature de jeunesse pour le TES, TM Band Narskoliou, c'est une maison d'édition publique. Qui édite des livres pour les écoles, pour les enfants des écoles. Donc il m'est arrivé de traduire, j'ai fait même un petit album à partir d'une comptine, voilà, l'histoire d'un petit cheval.
Ok, c'est important de produire des documents et de faire vivre la langue par une création artistique, quoi.
Ouais, puis c'est un plaisir de voir des livres publiés dans plusieurs langues et de comparer un petit peu la façon dont on rend les choses en anglais, en français, les onomatopées par exemple, ça peut être sympa.
Ah, comment il fait le coq en breton?
Oh là, il fait plein de choses différentes, mais ouais.
Parce qu'en français, c'est
cocorico ou quelque chose comme ça.
Ah ouais, ok. D'accord, c'est pas très différent du coq français.
Non, pas tellement, mais je crois que tout le monde il n'y avait pas la même onomatopée partout.
Ouais,
c'est
ça. Pour les Espagnols, c'est insensé, je sais plus qu'est-ce qu'ils font.
Ouais, mais peut-être que le breton étant une langue moins unifiée, il n'y a pas forcément une onomatopée typique pour tout le monde non plus, quoi. Voilà.
Ok. Ouais. Bon, on va faire une petite pause dans cette interview. On va écouter Ludwig. Ludwig qui va nous faire une chronique sur Ménéam.
Ouais, bonsoir. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler de la légende des naufrageurs dans le pays pagan. Il se raconte qu'autrefois, les habitants de cette contrée causaient des naufrages sur cette côte rocheuse particulièrement accidentée en vue du pillage des victimes échouées sur la plage et des épaves des bateaux. Les pagans, paganistes en breton, étaient des rebelles insoumis et indisciplinés, des anarchistes avant l'heure. Il se raconte qu'ils accrochaient de nuit et par mauvais temps des lanternes aux cornes de leurs vaches afin de provoquer la perdition des navires qui voguaient au large. Paraîtrait-il que lorsque les navires s'échouaient, les pagans tuaient les survivants et rejetaient les cadavres à la mer après les avoir dépouillés de tous leurs biens. D'après les dires d'un historien, en 1831, ils auraient même arraché avec les dents une bague du doigt d'une femme qui se noyait. Bien que les pagans étaient des personnes extrêmement pauvres qui se sont livrées au pillage de navires desquels ils n'avaient apparemment pas provoqué les naufrages, la véracité de la légende des naufrageurs n'a jamais été prouvée ni par des historiens ni par des marins ou habitants du secteur. La côte du pays pagan étant particulièrement rocheuse, il ne fallait pas une imagination débordante pour se laisser convaincre de naufrages dans le secteur. Ainsi naquit la légende popularisée dans un premier temps par les romantiques du 19e siècle. Sous leur plume, les naufrageurs devenaient des êtres de plus en plus sordides. Si l'histoire des naufrageurs est commune à bien des secteurs littoraux, elle est d'autant plus liée à Ménéam, village de paysans pêcheurs goémoniers sachant tirer profit des richesses envoyées par la mer après les tempêtes. Situé à proximité de Brignogan, Ménéam est de nos jours un site naturel, culturel et historique à découvrir absolument. Pour ma part, l'incontournable du Finistère Nord, avec son village de chaumières et ses artisans, sa plage de sable fin et sa multitude d'énormes rochers aux formes étranges. Le village est le lieu de nombreuses animations annuelles, dont des fest-noz, chaque dimanche après-midi en été. À l'arrière du village, une maison coincée entre deux rochers mythiques, carte postale du Finistère Nord, le corps de garde. Stratégiquement dissimulé entre d'énormes rochers, positionné à 21 mètres au-dessus du niveau de la mer avec vue dégagée du phare de l'île Vierge au phare de Fontusval. Il permettait aux douaniers de voir loin sans être vu. Dès 1840, d'autres maisons se sont construites à proximité du corps de garde pour accueillir les douaniers et leurs familles. Puis ils furent progressivement remplacés par les paysans goémoniers. La pêche, le ramassage, le séchage et la vente du goémon constituaient à cette époque une source de revenus non négligeable pour les habitants du secteur. Puis avec le modernisme et le classement du village au patrimoine historique en 1975, Ménéam se diversifia. Comme en de nombreux endroits, autrefois il y avait ceci, il y avait cela. Aujourd'hui, tout se meurt et reste à la mémoire du passé. J'espère que cette histoire vous a intéressé.
Merci Ludwig. Alors on reprend l'interview au Mélardite avec Jérôme Palutte, qu'on est content d'accueillir.
Je voulais revenir sur l'album que tu avais écrit. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'on peut le trouver en librairie? Est-ce qu'on peut l'acheter ou...
Ouais, je pense qu'on peut le trouver. Bon, souvent, il faut demander, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, c'est dans les librairies ou sur...
Ouais, ça s'appelle ouais. Marie Gwen. C'est pas une grande histoire compliquée. C'est juste une petite comptine mise en sous forme d'album avec un CD enregistré par Mona Jawen. Et des dessins de Laure Gomez.
D'accord, ok, bon bah, pour les intéressés.
Alors, dans ton rapport au breton, je sais que tu vas régulièrement à des causeries en breton. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, c'est plus un groupe de copains, en fait. Hein, où on se retrouve entre passionnés de la langue bretonne, et puis chacun apporte un peu ce qu'il sait. Certains en savent beaucoup, d'autres un peu moins, ce qui est mon cas. Et... voilà, on ressort toujours de là en ayant appris plein de choses et élargi nos horizons.
Vous travaillez la langue?
Ouais, voilà. Bon, parfois, ça part d'un mot, hein, quelque chose qui, un mot qui n'a pas été compris. Et on essaye tous d'explorer les mots de la même famille. Et puis d'un mot, ça nous amène à d'autres. Parfois, on lit aussi des textes anciens. Et puis on s'essaye un peu en ce moment au breton, au moyen breton. Voilà.
C'est-à-dire qu'on remonte à quelle époque ?
Là, on est au XVIe siècle, je crois, le texte est XVIe siècle.
Ouais. Et le breton était différent à ce moment-là ?
Alors, il y a peu de textes hein, de cette époque-là, ouais. Mais ouais, c'était une forme un petit peu différente du breton d'aujourd'hui, mais on retrouve grosso modo les mêmes caractéristiques.
Alors, la transition est parfaite parce que je voulais arriver sur l'histoire de la langue. Bravo, Jérôme.
Oui, je t'en prie.
Quand on parle du français et qu'on veut chercher l'origine des mots, on va chercher dans le latin, dans le grec. Ouais. Comment ça se passe pour le breton ?
Ah, alors ça, en quelques mots.
Ouais, on n'a que une heure, hein, en tout.
Non, le breton, c'est une langue très ancienne, bien plus ancienne que le français.
Oui,
puisque on considère que. Elle vient principalement des Bretons d'Outre-Manche, hein, les fameux saints.
Les moines irlandais.
Oui, ou bien gallois ou d'Outre-Manche.
Okay.
Voilà, de la Grande-Bretagne, qui au 4e, 5e siècle sont arrivés en Armorique, ici, chez nous. Quoi. Mm-hmm. Et voilà, on ne sait pas trop qui ils étaient, on a coutume de les appeler des saints, mais en tout cas, c'était des personnes de pouvoir, prestigieuses. Et qui parlait une langue proche de la langue qu'on parlait sans doute encore ici, le gaulois. Bien que la Bretagne était romanisée, il est probable que le peuple parlait encore plus ou moins la langue gauloise. On ne sait pas dans quelle proportion. Donc c'est pour ça que la langue a été revitalisée ici et puis elle s'est maintenue en fait. Hein, au cours des siècles. Et... voilà, bon, là on est au 4e, 5e siècle. Là, il y a eu l'influence du latin par la suite, l'influence de...
Sur le breton ?
Oui, bien sûr.
Ah ouais ?
Bon, ouais, comme toutes les langues européennes, hein, par le latin étant la langue de l'apprentissage, de l'enseignement, les personnes lettrées. Voilà.
Ah oui.
Voilà.
Les personnes lettrées parlaient latin et donc en retour avaient une influence sur la langue.
Ils étaient scolarisés en latin, donc tout ce qui était tous les termes techniques, les termes en lien avec les termes juridiques, les termes religieux, les termes scientifiques.
Donc tout ce qui passe par l'écrit, quoi.
Alors oui, le breton, enfin la langue bretonne ne s'écrivait pas beaucoup puisque la langue de l'enseignement était le latin. Donc on a des textes écrits en breton très anciens. Hein. Le premier dictionnaire breton, c'est aussi le premier dictionnaire français. Hein. Donc c'est le Catholicon. C'est un dictionnaire latin-français avec du breton aussi. Voilà.
Ok.
Fin du 15e siècle.
Donc, il y a donc ce document-là, mais tu dis que ouais. Finalement, le breton est passé assez peu par l'écrit, donc on manque de matière aussi, quoi.
Ouais, voilà. On n'a pas énormément de traces de littérature en breton au XVIIIe siècle, par exemple. Mais on a quand même des textes intéressants et ce qui est rare et beau.
Ah. Et précieux.
Voilà.
Ok. L'histoire de la langue aussi, c'est l'histoire du pays, c'est l'histoire des gens. Et tu m'as raconté un jour que la Bretagne était un petit peu puissante à l'échelle de la planète dans la mesure où elle produisait le lin qui permettait de fabriquer les voiles qui ont engendré la découverte des nouvelles terres.
Alors ça, c'est, je sais pas, on sait pas, mais ici, on était dans... On sait bien, ici, autour de Loc-Mellar, hein, le pays des...
Oui.
Des julottes, donc des marchands, paysans marchands producteurs de toiles. Et donc ces toiles étaient exportées jusqu'à Londres, jusqu'aux Pays-Bas et servaient entre autres pour les voiles des navires. Donc on peut imaginer hein, que Christophe Colomb avait des voiles.
De Loc-Mellar.
On n'en sait rien. De Loc-Mellar.
Ouais. Et ouais. Donc la richesse des enclos paroissiaux, en fait, viendrait de cette époque-là, a priori.
Ben, c'est ce que je crois avoir lu, appris, notamment dans les livres du fameux historien Louis Leguette, là, qui a beaucoup étudié la question. Et, ouais, la Bretagne était très riche à l'époque.
Et oui. On a encore des traces de, comment on dit, des endroits où on produisait de lin
Des candies, candy oui. En breton, des maisons buandières en français, donc les endroits où on fabriquait on fabriquait le fil de lin, des ruissoirs aussi.
Voilà. Ok. Et moi, je voulais enchaîner sur le pays Schelgen.
Oui.
On avait reçu Pierre-Yves Moelle ici, le maire de la commune, qui avait parlé du pays Schelgen. Je connaissais pas du tout ça. Non. Et ça a l'air d'être finalement, on est dans le Glockmeller est dans le pays Schelgen.
Oui.
Et c'est quelques communes. Tu peux préciser un petit peu?
Oui, c'est vrai. Je me rappelle avoir parlé de ce terme-là avec mon grand-père qui était de Saint-Sauveur. Et lui, ce terme, il le connaissait vaguement, mais c'était les autres qui disaient ça de nous, vous m'avez dit. Schelgen, c'était même utilisé parfois par d'autres du haut Léon Cottier, là, comme un terme un peu dépréciatif.
Ah oui, mais on crache toujours sur le voisin.
Ouais. Mais c'était... bon, maintenant, c'est plus assumé, quoi. Ça correspond à un terroir, comme tous les autres terroirs. Tout à l'heure, on a parlé du pays pagan. Il y avait des tenues spéciales, la coiffe, ici c'était la numéro 8, on l'appelait, hein, la coiffe Schelgen, quoi. Mm-hmm. La coiffe Sparlen. Donc le pays Schelgen, c'est le pays de l'Andivisio 6-1, quoi. Et on l'appelle aussi le pays des Julottes, quoi. C'était le secteur où il y avait ces fameux paysans riches là, qui ont construit avec leur richesse les enclos paroissiaux qu'on vient visiter de loin maintenant.
Ok. Et le pays Schelgen, est-ce qu'on peut y voir une identité linguistique, économique? Qu'est-ce qui fait qu'on a aggloméré quelques communes comme ça? Parce que tu dis Landy 6-1, c'est un peu plus que ça aussi.
Ah ouais, c'est Landy 6-1, ça va être les deux grandes villes, entre guillemets. Au nord, c'est la limite, c'est Bodilis, Guiclan, Landy. Au sud, ça va jusqu'à la ligne des crêtes, quoi. Comana, Saint-Sauveur, bien sûr, Logmélar, on est en plein, jusqu'à Ploudiri. Voilà, c'est ce pays-là.
La Roche-Maurice, non?
La Roche-Maurice, c'est aussi, c'est la limite côté ouest.
Donc c'est assez vaste quand même, ça faisait quand même pas mal de personnes, en fait.
Ouais, puis ça correspond à une unité. Social, économique à une époque, je pense, quoi. C'est pas la zone légumière non plus, quoi. Quand on passe Landy, après, on arrive dans la zone légumière. Ici, c'était la zone où on vivait du lin. Mais bon, le lin, la culture du lin et la richesse du lin a commencé à péricliter au 18e siècle, à peu près, hein, fin du 18e. Ça a continué un petit peu au 19e. Mais, voilà.
L'élevage des chevaux aussi, non?
L'élevage des chevaux, après, de ce que je sais, c'est les chevaux ont pris un petit peu le relais après, quoi. Quand le lin a périclité, certains paysans ont poursuivi leur activité par l'élevage des chevaux, quoi. Et qui était exporté jusqu'à très loin. Hein, voilà. Et puis il y avait la foire de Landy, hein, qui était célèbre, par exemple.
C'est venu plus tard, du coup.
Je crois, ouais.
Alors, avant de passer à une musique, moi, j'avais quand même envie de t'interroger sur un peu le complexe du plouc qu'on peut connaître ici. Je suis allé l'année dernière visiter Paris avec mes enfants pour montrer que, bon, c'était pas si beau que ça par rapport à la nature qu'on a ici. J'avais besoin de déconstruire ce complexe du plouc. Explique-moi, qu'est-ce qui se joue en moi?
Je sais pas, mais... Ouais, plouc, on ne sait pas trop d'où vient ce mot. Hein. Peut-être des paroisses en plou, là, justement. Ouais. Donc on serait des vrais ploucs, nous, quoi. Nous, hein. Pas
ouais,
à Logmélar.
Oui, on est entouré de plou, oui.
Ouais. Bah, c'est peut-être la honte d'être de la campagne, alors, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, avec les enfants à l'école et tout, c'est de leur montrer qu'ici aussi, chez nous, il y a des belles choses dont on peut être fier. C'est important, je pense, dans la construction de chacun, de savoir... de pouvoir valoriser son pays, son coin, sans être chauvin, évidemment, hein, c'est pas du tout l'objet, mais ici, on a de quoi faire, quoi. Hein, l'église de Locmélar à côté, elle est magnifique. Et souvent, je trouve que les gens, ici, ils regardent pas. Mais ça doit être vrai partout. Hein, on regarde pas trop ce qu'on a autour de soi, quoi.
Je pense qu'on est confronté à des médias qui nous montrent ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est machin. Et en fait, les médias, ils traînent pas par ici, à Locmélar. Donc,
faut
apprendre à aimer son pays, quoi.
Les enclos, on va essayer de les valoriser. Je crois qu'ils vont être classés
à l'UNESCO
bientôt. Ouais. Il y a un petit musée à Guimillo aussi pour mettre tout ça en valeur. Et on commence à avoir des lieux aussi pour valoriser cette. Voilà. C'est intéressant parce que c'est aussi une ouverture sur le monde. Hein. L'architecture, c'est le témoin d'une évolution. C'est le témoin de l'évolution architecturale. À une plus large échelle, quoi. On retrouve des traces de la Renaissance italienne dans l'architecture d'ici.
Non.
Donc, voilà. C'était la mode de l'époque, quoi. Donc, c'était.
Ah ouais.
Oui.
Ok. Ouais. Bon, merci pour ces nouvelles pistes, Jérôme, qu'on va causer. On va la creuser après l'émission, peut-être.
Si tu veux.
L'émission n'est pas finie, mais je voulais juste intervenir parce qu'on va écouter une chanson que tu as choisie, Jérôme. Alors, je vais te laisser le soin de nous dire.
Alors, c'est
l'auteur et le titre, ça va être compliqué.
Ah ouais, il a un nom imprononçable. Hein. C'est Jim Legacy.
Ah, tu le fais tranquille. Là.
Voilà.
Tu as sauté une lettre.
Ouais. Un chanteur anglais. Voilà.
Ok, musique.
I've been living on the floors, I know. Fighting with my thoughts, I know. I've been trying to find a cure, I know. I got tobacco in my drawer, I know. But I don't know if I give them everything and then they'll love me. I don't know. Yeah, I told them, I don't know. I was living on the floors, didn't stop, ayy. 29 seconds on my block and the feds pull up on us all night. Friends told me if I made money, I'll die. Nearly 2 years since I lost, you wanna cry. But I don't know if I give them everything and they don't love me. I don't know. Yeah, I told them, I don't know. I was living on the floors, didn't stop, ayy. But so it goes, 22 ages in deposit, gone slow. Tryna make a killing, they ain't give me dividends. I was on the early ages, I was losing all my friends. I was, but I don't know. Scheming with the veggies in my pocket, I don't know. If I die a legend, hope they lay me with my friends. I was tryna talk to labels, they would tell me chase a trend. I was, I've been living with my flaws, I know. Fighting with my thoughts, I know. I've been tryna find a cure, I know. Living on the floors, didn't stop, ayy. 29 seconds on my block and the feds pull up on us, got a lie. Friends told me if I made money, I'll die. Nearly 2 years since I lost, you wanna cry. But I don't know if I give them everything and they don't love me. I don't know. Yeah, I told them I don't know. I was living on the floors, didn't stop, ayy.
Pas dedans. Voilà, on est de retour au Mélardite avec Jérôme Palut qui nous raconte plein de choses intéressantes autour du breton, avec Ludwig qui nous a fait sa chronique sur Ménéam, Mick qui nous a fait la présentation et la technique, et Quentin qui supervise tout ça. Et le Mélardite en folie.
Ouais.
Merci Mélardite. Jérôme, on reprend notre interview conversation. Moi, je voudrais que tu nous parles un petit peu de la production culturelle de la langue bretonne, en termes de films, de... Tu connais un peu tout ça ? Tu as un peu un regard là-dessus ?
Ouais, je connais un peu, mais pas tellement plus que tout le monde, mais la musique bretonne est très riche, par exemple. Mmh. Voilà, c'est peut-être qu'elle n'a jamais été aussi riche, finalement.
Ah ouais,
ouais, je pense. Hein. Maintenant, c'est pas diffusé tous les jours dans les radios, mais bon, il y a beaucoup de choses. Le breton, c'est vrai qu'on l'entend de moins en moins, hein, c'est sûr, hein, on va pas se mentir, mais il y a pas mal de choses sur Internet, donc c'est une langue qu'on peut pratiquer si on va vers elle, en fait.
Elle peut trouver ses canaux, quoi.
Ouais, voilà, on trouve des gens à qui parler, on trouve de quoi lire, des romans, des nouvelles, des poèmes, des sitcoms, des petites émissions, des dessins animés, on trouve beaucoup de choses, mais ça dépend à quoi on compare.
Et il me semble avoir vu Columbo traduit en breton.
Voilà, alors je n'ai pas vu Columbo traduit en breton, mais je sais que ça existe.
Ouais. Ok, je voudrais parler de l'enseignement maintenant, de la langue. L'autre jour, on préparait une émission, l'émission précédente, sur le bocage. Et il y a quelqu'un qui racontait que après le remembrement, il y a plein de chants qui ont disparu. Et à travers ces chants qui ont disparu, le nom de ces chants disparaissait. Ouais. Et il déplorait le fait qu'on perde des mots à travers ça et que du coup la langue s'appauvrissait. Pour toi, préserver une langue, c'est hyper important, quoi.
Ouais, la préserver, la faire vivre, en fait, quoi. Et puis les noms de lieux, ouais, c'est vrai que c'est une richesse. Et je trouve que ça donne de la couleur au pays, quoi, quand on regarde les panneaux, surtout les noms de la microtoponymie, là, comme tu dis, les noms de champs, et voilà. Ça, les noms de villages, ça donne, ça fait rêver un peu quand on connaît un petit peu la langue, ou quand tout simplement on essaye de s'y intéresser, bah, on essaye de décoder les mots, et derrière les mots, il y a des réalités, quoi. Donc,
Et les champs avaient tel nom parce qu'ils avaient telle spécificité aussi, quoi.
Ouais, ou le nom de leur propriétaire, ou parfois un surnom. Ah ouais, aussi. Les gens avaient tous des surnoms, donc les surnoms racontent quelque chose aussi sur les gens à l'époque. C'est sympa.
Tu es enseignant, tu enseignes le breton. Je crois savoir qu'il existe plusieurs bretons. En fait, c'était des langues, enfin, on le pratiquait localement, mais les déplacements ne se faisaient pas comme aujourd'hui, avant, et donc du coup, il y avait des différences qui se créaient à quelques dizaines de kilomètres près. Aujourd'hui, quand on doit enseigner une langue comme ça, on harmonise ?
En fait, il n'y a pas plusieurs bretons pour moi. Il y a de la variation, comme dans toutes les langues, quoi.
C'est-à-dire
qu'il y a de la variation dialectale. Donc, on ne parle pas le breton tout à fait de la même façon à Plouguerneau et à Loguemelard, par exemple. Et encore moins, si on va plus loin, dans le Vannetais. Voilà. Mais pour autant, c'est la même langue, et elle a une origine ancienne, on en parlait tout à l'heure, c'est une langue celtique, avec des... Voilà, même s'il y a l'influence du latin aussi, des parlers romans, mais...
Oui, parce qu'on dit qu'il y a le... Dans une ligne à peu près imaginaire... Saint-Brieuc-Vannes, à l'ouest, ils disent c'est le pays breton. Et à l'est, jusqu'à l'Atlantique, ils disent c'est le gallo.
Oui.
Donc, après, comme Jean R. il dit, à 10 km près, c'est pas les mêmes consonances. Mais est-ce que c'est pas la même langue, du coup, le breton de l'ouest, de la ligne imaginaire Saint-Brieuc-Vannes, et
non,
rien
à voir,
l'est, hein. Le gallo. Le breton et le gallo, c'est deux choses
complètement différentes. Le breton, c'est une langue celtique. Le gallo, c'est une langue d'Oyle, en fait, hein, c'est une langue romane, ouais. Comme le français, sauf que le français, c'est un patois qui a eu de la chance, et donc c'est un patois qui a grandi, qui était la langue des rois, donc qui a été institutionnalisé et puis centralisé autour des médias. Et voilà, c'est la différence avec le breton, quoi.
C'est plus une langue latine, en fait, le gallo, finalement, quoi.
C'est une langue latine, voilà.
Donc tu enseignes le breton, et on a parlé en début d'émission sur le fait que tu avais entendu le breton pendant tes plus jeunes années avant de le pratiquer. Aujourd'hui, ceux qui doivent apprendre le breton, ils n'ont pas forcément l'appui de ces anciens là. C'est compliqué à affronter, ça, peut-être.
Ouais, c'est pas facile, hein. Il faut être motivé.
Ouais.
Mais l'expérience montre qu'ils y arrivent.
Ouais.
Donc voilà, on trouve d'autres référents. La famille proche, les voisins, mais et puis donc le chemin se fait différemment, et la langue évolue aussi.
Donc en fait, quand on cherche un peu, on va trouver quelqu'un qui parle breton.
Je crois, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah, il faut être motivé hein, quand même, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est pas facile d'apprendre le breton. Il faut voir ça comme une aventure, je crois.
Ah oui.
Ben ouais, parce que c'est pas simple. Et puis on est peut-être toujours un petit peu frustré parce que on aura toujours un petit décalage avec la grande langue qu'est le français, qui est diffusée partout, qui est notre langue principale, nous tous quand même.
J'ai l'impression que les écoles qui enseignent le breton ont un peu le vent en poupe. C'est une fausse impression ou...
Non, je crois que ça intéresse beaucoup de gens.
Ouais, par rapport à nous, quand on était enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements en breton.
Oui, quand on était, nous, enfants, dans les années 80, les écoles où on enseignait le breton n'existaient pratiquement pas. Enfin, les premières écoles d'Iwan, la première école d'Iwan, c'était à Lampalpudel Mesu en 77. Donc voilà, ça s'est développé ensuite lentement. Et puis maintenant, il y a quand même des classes bilingues dans beaucoup d'écoles. Classes bilingues où le système immersif d'Iwan perdure aussi.
Est-ce que ça, c'est homogène sur toute la Bretagne? Est-ce qu'on apprend le breton dans toute la Bretagne?
Alors maintenant, oui. Il y a des classes bilingues français-breton qui ouvrent même en Ille-et-Vilaine, même en Loire-Atlantique. Il y en a quand même beaucoup plus par ici. Mais il y a une appétence pour la langue bretonne au-delà de la Basse-Bretagne, quoi.
Je viens de me rendre compte qu'en fait, on t'a pas entendu parler breton du tout depuis le début de l'émission. Je propose que tu répondes en breton sur la prochaine question et que tu traduises après.
Yama Keres.
Ce serait bien qu'on entende un peu de breton quand même.
Madeo.
Moi, je voulais savoir aussi si la langue bretonne. Bah, j'ai lu le breton pour les nuls, j'ai pas réussi. Est-ce que c'est une langue difficile à apprendre?
Diez neket amzer zoezum dazeski. Je te dis que c'est pas si difficile, mais qu'il faut un peu de temps pour apprendre.
C'est ça, la persévérance.
Voilà. Patiente tête, arankardagout.
Alors là, il faut que tu traduises encore.
Il faut avoir de la patience.
Ok. Est-ce que c'est un problème pour un enfant d'apprendre le français et le breton en même temps à l'école?
Non, non, c'est pas un problème. Les enfants, de toute façon, ils ont un challenge hein, énorme devant eux. Hein, ils sont tout petits, ils découvrent tout. En général, ils se posent pas de questions, ils prennent ce qu'on leur donne et ils s'adaptent. Et à condition que la qualité de la langue soit au rendez-vous, que il leur soit donné à entendre des choses qui les intéressent, qui soient riches, qui répondent à leur curiosité, que ce soit en français ou en breton, ils vont embarquer.
Donc plus qu'un problème, ça peut être une stimulation en fait.
Bah oui, avoir deux langues, c'est deux prismes différents par rapport à la réalité. Donc c'est voir la réalité de façon peut-être plus large, peut-être plus riche.
Est-ce que tu nous ferais une petite sucrerie, Jérôme, avant qu'on arrête cette interview? Moi, je voulais entendre des expressions idiomatiques, des expressions propres au breton.
Ouais.
Tu en as apporté avec toi, il me semble.
Alors ouais, tu m'as demandé d'en noter quelques-unes, alors j'en ai noté. Peut-être celle-ci que je trouve amusante. En français, on fait des ricochets. En breton, on fait crampois varandour. Et voilà, on fait des crêpes. On fait des crêpes sur l'eau.
Sur l'eau.
Je trouve que c'est rigolo. On voit bien l'image de la crêpe qui se forme, des crêpes qui se forment en breton.
Ah, j'ai jamais essayé de ricocher avec une crêpe, mais je suis sûr que ça marche d'enfer.
Ah ben peut-être, moi non plus, j'ai pas essayé.
Non, en même temps, on la mange.
Ouais, voilà, c'est plutôt ça, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Souvent, il y a des expressions qui sont assez proches du français, mais qui sont un peu différentes. Nehler ke kaudarma aganaran. Mot à mot, on ne peut pas avoir le cheval et l'argent. En français, le beurre et l'argent du beurre.
Oui. Bon, voilà, il y a du cheval, quoi.
Il y a du cheval, ouais, c'est...
Ok, hey, Jérôme, tu nous en gardes une pour après. On va écouter Mick qui va nous faire sa chronique sur une chanson que tu lui as demandé. C'était quelle chanson?
Alors c'est Amoureuse, Véronique Sanson.
Et on se retrouve juste après pour conclure.
Pardon, voilà, c'est moi. Bonsoir. Je vais donc vous raconter l'histoire de la chanson donc Amoureuse de Véronique Sanson qui a été demandée donc par Jérôme. Donc Véronique Sanson a raconté qu'elle a eu l'inspiration de la première ébauche de la chanson en remontant l'avenue des Champs-Élysées au volant de sa petite décapotable Auto Bianchi A112 au lever du jour, après une nuit d'amour avec Michel Berger, alors que le soleil levant illuminait l'Arc de Triomphe. Amoureuse est une chanson composée, écrite donc et enregistrée en 1971 par Véronique Sanson et publiée sur son premier album homonyme en 1972. C'est une chanson emblématique de la chanteuse. Amoureuse a connu à travers le monde plus de 30 reprises dans au moins 6 langues. Donc elle vit une histoire d'amour avec Michel Berger de 1966 à 1972. Un jour de 72, la chanteuse prétexte l'achat d'un paquet de cigarettes pour sortir et ne jamais revenir. En réalité, elle passe chez sa mère chercher son passeport et s'envole vers les États-Unis pour rejoindre son fils Steven Stills. Sur une maquette enregistrée en juin 71, ne figurent que les paroles du premier couplet et les bribes du refrain. La chanson a vraisemblablement été achevée par la suite et finalement enregistrée en décembre 1971. Sur une ample mélodie tout en rupture harmonique qui sera certainement pour beaucoup dans le succès international de la chanson, elle y raconte soit les sentiments contradictoires auxquels est confrontée une jeune fille qui vit une histoire sentimentale passionnée interdite pour une jeune fille mineure, ou parlait-elle de l'amour que l'on peut ressentir pour un autre quand on est déjà engagé dans une relation? Avec le temps, de nombreuses interprétations ont été données aux paroles de cette chanson. Véronique Sanson a donné elle-même des interprétations différentes de l'impression d'amour interdit, qui s'exprime dans les premiers vers. Une nuit, je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit. Elle a parfois expliqué que l'interdit venait d'un milieu familial rigoriste, à une époque où la majorité était encore à 21 ans, et ça jusqu'en 1974. La chanson sort le 20 mars 1972, mais ne connaît qu'un succès mesuré. La deuxième chanson extraite de l'album, « Besoin de personne », se vend davantage et permet à l'album de connaître un succès à l'étranger. C'est au Québec, où le disque sort quelques mois plus tard, que « Amoureuse » commence à connaître un succès international. Dans le courant de l'année 72, à la suite d'un excellent accueil de l'album en France, la maison de disques croit à une carrière internationale pour la chanteuse et lui fait enregistrer des versions étrangères d'Amoureuse. Cet album a été certifié double disque d'or pour plus de 200 000 exemplaires vendus en France. Amoureuse est classée 72e dans la liste des 100 meilleurs albums français de tous les temps publiés par le magazine Les Incorruptibles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur cette chanson. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chanson. Et on retrouve Jean R, notre animateur national, pour la suite de l'interview de passe le mic juste après avoir écouté Amoureuse de Véronique Sanson.
Une nuit je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit, et je sens la fièvre qui me mord sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. pas parler son langage.
Ah bah après une chanson comme ça, moi je suis amoureux. on continue ou... Ouais.
Voilà, change de sujet.
Moi j'adore les expressions idiomatiques parce que ça parle vraiment d'un peuple, de pratique, de machin. Pour illustrer, enfin quand j'ai pensé à ça, pour t'interroger là-dessus, je pensais à... Enfin, j'en connais une anglaise qui dit « The stick to match on the camel's back ». Donc, le bâton de trop sur le dos du chameau, qu'on traduira en français par la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je trouve ça insensé, en fait.
Ouais. C'est toute une image, quoi.
Est-ce que tu as un peu de ça, du coup,
en breton ? Ouais, sûrement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, je ne l'ai pas tout de suite, par contre. Mais il y en a d'autres, ouais, ouais. Il y a plein d'expressions, comme dans toutes les langues, quoi. Je sais pas, par exemple, quand on dit en français « il aura coulé de l'eau sous les ponts », en breton on dit « à ben nehe, à garandi, no harzed me regi ». Et d'ici là, beaucoup de chiens auront aboyé. Donc c'est pas l'eau qui coule, mais c'est les chiens qui aboient. Je trouve ça marrant, c'est mignon.
Ouais, c'est compter le temps d'une manière différente.
Voilà, ouais, ouais. En français on dit aussi « il est mal dans sa peau ». Alors, la peau d'un arbre, l'écorce, en breton, raquet d'aruskenvrat. Tu fais pas de la bonne écorce. Okay. Ça va pas, quoi.
Ok. Voilà. Donc la peau est une écorce.
Ben, dans l'expression, quoi. Il y a plein d'expressions comme
donc,
ça.
Donc attends, tout à l'heure on parlait du cheval dans l'expression. Là on a le chien, là on a l'écorce. Ça nous parle de nature quand même.
Ouais, ben, ça va être.
Est-ce que le breton est une langue rurale?
Ben, pas spécifiquement, parce qu'on a parlé breton dans différents milieux depuis toujours. Les élites de Bretagne ont arrêté de parler le breton à peu près au XIe siècle. Donc voilà, ça c'est vrai. Mais la langue a continué à se diffuser par les institutions
scolaires. Ils ont arrêté
scolaires.
De parler tout court ?
Non, non, ils ont parlé français, en fait. Parce que nos élites étaient plutôt à l'est de la Bretagne, quoi. Mais malgré tout, la langue a continué à se diffuser. Donc quand les prêtres parlaient breton entre eux, c'était pas de ce qui se passait à la campagne. Ils parlaient de choses en lien avec leur vécu d'ecclésiastique, quoi. Mais oui, c'est pas une langue qui a été diffusée à grande échelle. Est centralisé comme le français, donc c'est une langue qui a une forte identité rurale, le monde des pêcheurs, le monde des agriculteurs surtout, quoi, des paysans.
Merci Jérôme, l'horloge nous rattrape. On aurait pu faire 3 heures, 5,
oui,
plus.
Certainement.
Peut-être qu'il y aura des discussions en breton ou mélardite.
Voilà, ouais, on en a parlé, ça pourrait être une idée. Ouais.
Merci Jérôme d'être venu de nous parler de ça, de
avec
tout
plaisir.
Ça. On est content, on a appris plein de choses.
Quand le plaisir dure.
Ok, je crois avoir compris. C'était la dernière émission de la saison. Alors, je tiens à remercier Ludwig. Merci Ludwig pour tes chroniques.
Eh ben, de rien, merci beaucoup.
Merci Mick pour tes chroniques, pour la technique, pour la présentation.
Merci.
Pour la présence, pour tout. Merci Quentin de nous avoir appris tout ça, de nous avoir lancé là-dessus.
De rien, merci à vous.
Un petit moment en breton.
Merci Brass d'Anol, à Ken Vergouelet et Miss Gwengolo Autonne, quoi. On se voit au mois de septembre pour moi, quoi.
Alors, on a hâte, on va essayer de faire vivre cette radio pendant l'été, on sait pas sous quelle forme encore, mais
vous nous trouverez assez facilement a priori. On vous souhaite tous un bel été. Merci, au revoir, merci Jérôme.
Bravo.
T'en peux plus d'être un agneau.
Sors de l'enclos, mets la radio.
Sors du troupeau, mets la radio. Dans les monts d'art, à Locmélard.
Tu veux découvrir la radio?
Oh oui, je veux.
Viens en bistrot, dans les monts d'art, près de Locmélard.
Sors du troupeau.
Sors du troupeau, à Locmélard, dans les monts d'art.
Mets la radio.
Deviens le mouton noir du troupeau et mets la radio.